Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio TerraZen et vous écoutez l'émission Histoire du Soir. Bonsoir, vous êtes donc avec Olivier et donc ce soir pour cette 23e émission, nous allons aborder la thématique des fantômes. Fantômes occidentaux, fantômes aussi orientaux, et on avait intitulé cette émission Chine et ses mystères à l'origine, et en effet il va bien s'agir aujourd'hui de l'Orient lointain et des mystères qu'il peut susciter. En tout premier lieu, je m'excuse d'enregistrer cette émission en différé, quelques problèmes indépendants de ma volonté ont fait que le 26 avril dernier, je n'ai pas pu être en direct. Et je remercie d'ailleurs au passage Cédric pour son aide technique. Alors, dans un premier temps, on va s'intéresser aux fantômes et à cet extrême-orient mystérieux, à ces temples abandonnés parfois, à des lieux qui inspirent des craintes, des hantises. Mais à l'origine, il faut quand même repartir des fondamentaux. Alors généralement, le terme de fantôme est associé à ce qu'on appelle des apparitions et aussi des villes fantômes, le fantôme de l'opéra. Toujours est-il que le nom de fantôme dérive du grec ancien, donc fantasma, et il a été repris ensuite. En version méridionale, fantoma, pour se fixer en fantôme au XIIe siècle. Et les fantômes, donc, sauf de rarissimes apparitions d'animaux, ont généralement une forme humaine, vêtue d'un vêtement qu'ils portaient à l'époque de leur vie terrestre. Tantôt, ils ont l'apparence parfaite de la vie, nous dit un spécialiste du nom de Charles Richer. Tantôt ils sont transparents et nuageux comme des ombres. Généralement ils semblent entrer par une porte et poursuivre leur route jusqu'à une autre chambre où ils disparaissent. Souvent ils naissent à l'improviste et se résolvent en vapeur, en passant à travers les murs et les formes closes. Tantôt ils marchent, tantôt ils sont comme suspendus dans l'air. L'arrivée du fantôme se révèle presque toujours par un vague sentiment d'horreur, la sensation d'une présence coïncidant avec un souffle glacé, presque toujours, sans être totalement indifférent aux personnes qui sont là. Alors, il y a aussi ce que nous appelons sur le plan médical les fameuses terreurs nocturnes. Ce sont ces moments où, entre le sommeil et la veille, on peut effectivement voir des choses curieuses. Alors, selon divers sondages effectués dans le monde depuis 1980, il apparaît que la croyance à l'existence des fantômes est largement répandue dans la population. Cela varie fortement selon les pays. 13% seulement en France en 2000, 21% au Québec en 2001, 50% chez les Chinois en 81, 51% aux États-Unis en 2009, 52% au Royaume-Uni. Ça, c'est intéressant de voir que dans le cas de la Chine, le thème du fantôme comment dire, existe parce que, en effet, les superstitions liées à certaines traditions font que, en effet, il y a toute une culture du fantastique et du fantôme dans cette région du monde. Hein. Alors, les origines. Alors, depuis la nuit des temps, la plupart des traditions, des religions et des philosophies considèrent que l'être humain est composé d'un corps mortel et d'une âme immortelle. Ou encore d'un corps et d'un esprit et d'une âme. L'Égypte, par exemple, avait une conception de l'être beaucoup plus complexe, mais distinguer entre autres le corps, le jet, et l'âme, pas. On retrouve donc une pensée analogue hein, dans la plupart des civilisations du monde, avec les liens plus ou moins établis avec les notions d'âme, d'esprit, d'ombre, de double. Donc tout ça, ça prend ses racines déjà dès l'Antiquité. Un des plus anciens récits qui nous soit parvenu est celui de Pline le Jeune, hein, 61 à 114. Pline raconte un incident survenu à un ami à lui, le philosophe Athénodore le Cananite, dans une maison où il venait de louer à très bon marché car il était hanté par un terrible spectre qui faisait fuir ses habitants. Dans le silence de la nuit, on entendait un froissement de fer et en écoutant avec attention le retentissement des chaînes agitées. Le bruit semblait d'abord venir de loin et ensuite s'approcher. Bientôt apparaissait le spectre, un vieillard, maigre et hideux, à la barbe longue, aux cheveux hérissés. Ses pieds et ses mains étaient chargés de des fers qu'il secouait. Athénodore donc s'installe dans la maison et attend l'arrivée du fantôme, celui-ci ne tarde pas et à se manifester bruyamment et l'invite à suivre. Le fantôme marchait d'un pas lent, disent-ils. Il semblait accablé par le poids des chaînes. Arrivé dans la cour de la maison, il s'évanouit tout à coup aux yeux du philosophe. Celui-ci marque le lieu où il a disparu par un amas d'herbes et de feuilles. Le lendemain, il va retrouver les magistrats et leur demande de faire fouiller en cet endroit. On trouve des ossements encore enlacés dans des chaînes. Le corps consumé par le temps et par la terre n'avait laissé au fer que ses restes nus et dépouillés. On le rassemble, on les ensevelit publiquement, et après ses derniers devoirs, le mort ne trouva plus le repos de la maison. Donc voilà, on a cette idée de base que ce fantôme, en fait, ces revenants viennent donc tant hanter des lieux pour en quelque sorte expurger quelque chose, des endroits où un meurtre a été commis ou des endroits qui sont donc empreints d'un tracé mémoriel violent, pourrions-nous dire. Et on finit toujours par s'en débarrasser parce que, comme dans tous les films, etc., le drame passé est identifié. Et une fois qu'il a été identifié, on peut essayer de le régler a posteriori. Et ce qui fait que l'âme tourmentée du fantôme, tout simplement, s'en va, quitte les lieux. Alors, malgré les propositions du chercheur britannique Evans, il n'existe pas de classification universellement reconnue des apparitions fantomiques. On peut toutefois en distinguer les principales catégories dans le système de classification de Valley. Les poltergeists sont des anomalies à effet physique de type AN2, tandis que le fantôme sort des entités relevant du type AN3. Alors, les poltergeists ou esprits frappeurs sont souvent qualifiés de fantômes. Bien qu'ils constituent une catégorie particulière, on regroupe traditionnellement toutes ces manifestations sous le terme générique de petites hantises qui diffèrent de la grande. En ce qu'elle a été exclue des apparitions des revenants des fantômes, sera essentiellement le mouvement d'objets inexplicables, de jets de pierre, de bruit sans cause physique. Les apparitions de formes floues sont très rares, ainsi que la référence possible à un ou plusieurs défunts. Ces phénomènes seraient le plus souvent liés à la présence d'adolescents perturbés. Alors ensuite, il y a une autre catégorie qui sont les revenants. Alors, les vrais revenants défunts qui décident délibérément de revenir pour diverses raisons, par opposition aux faux revenants constitués par des morts dont la présence semble perdurer quelque temps après leur décès, comme s'ils n'arrivaient pas à disparaître définitivement, ou bien tirés de l'au-delà pour défendre les sépultures. Selon plusieurs récits légendaires du Moyen-Âge, il arrive que les morts récents se manifestent et semblent refuser de se laisser mener au tombeau. Selon une tradition largement partagée, les morts habitent leur tombeau et il est parvenu à les déranger. Il arrive que le défunt manifeste lui-même un mécontentement et menace l'intrus de l'amener à le rejoindre. Alors, il y a aussi les défunts qui sont contraints de revenir parmi les vivants à cause d'opérations de nécromancie. Dans son ouvrage Métamorphose, écrit au IIe siècle de notre ère, Apulée fait le récit d'un phénomène tout à fait inexplicable, puisque en fait, il s'agit d'une forme qui émerge de l'esprit de cette personne. Alors, ce qui est intéressant c'est de voir quand même que, bien que tout cela n'existe pas, il y a quand même eu pas mal de recherches sur tout cela. Le spiritisme, par exemple, est considéré comme la forme contemporaine d'invocation de l'esprit des morts. Et à ce titre, l'héritier d'une tradition de nécromancie qui remonte à l'Angleterre. Les communications se font par l'intermédiaire d'un médium, évidemment, pour pouvoir communiquer avec. Bien sûr. Alors, il y a différents types de fantômes. Donc, les fantômes sont des apparitions d'une forme généralement humaine, très rarement animale. Il y a le phénomène des dames blanches qui annoncent des événements généralement funestes ou plus rarement heureux. Les lavandières de la nuit, souvent considérées comme des revenantes condamnées à expier leur faute. Et les autostoppeuses fantômes qui sont de plus en plus souvent des spectres de jeunes femmes décédées dans des accidents de la route. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les fantômes de vivants, Phantasm of the Living, d'un ouvrage rédigé en 1886 et paru en France en 1891. C'est la grande période, vous savez, de Mary Shelley, de tous ses romans, Dracula, etc. Donc la fin du 19e. Rédigé par Frédéric Myers, qui habite Frédéric Myers, qui effectivement citoyen britannique, et Edmund Gurney, avec la participation de Frank Podmore, tous trois membres de la société Psychical Research. Il arrive parfois qu'en dehors de tout motif grave, des individus apparaissent à leurs proches ou dans des lieux qui leur sont familiers, tout en étant physiquement à des distances considérables. Ce phénomène de dédoublement est connu sous le nom de bilocation lorsqu'il concerne des mystiques, des bienheureux ou des saints, tels que le Padre Pio pour les ésotéristes. Il pourrait s'agir de cas de dédoublement astral, le corps astral étant perçu exceptionnellement par des tiers. La vision de son propre double aussi, un autre phénomène consiste en la vision de son propre corps sous la forme d'un double fantomatique du commun des mortels. Il y a aussi des visions de armées de fantômes. De nombreuses légendes circulent au sujet de prétendues armées de fantômes se manifestant sur des champs de bataille. Deux mois, par exemple, après la bataille d'Edge Hill, en 1642, divers témoins, dont des officiers du roi, affirmèrent avoir vu durant la nuit, à plusieurs reprises, les armées rejouer la bataille du ciel. Puisque en 1915 se développa la légende des anges et démons, sur laquelle un groupe d'anges serait apparu aux soldats de l'armée britannique à la fin de la bataille de Mons en Belgique. C'est un événement datant de 1915. Son origine est une nouvelle intitulée The Bowmen, les archers, de l'écrivain fantastique Arthur Machen, publié en septembre 1914 avec le soutien de London Evening News, qui est devenu le support d'une rumeur colportant qu'il s'agissait de faits réels. Enfin, dans les années 30, Cadbury Hill, colline fortifiée située dans le Somerset, au sud de l'Angleterre. Voilà, donc voilà ce qu'on peut à peu près dire ici. Les fantômes d'animaux également, le fameux chien des Baskerville, hein, bien sûr. Ce qui est aussi tiré des mémoires d'outre-tombe de Châteaubriand, qui font état d'un chat noir qui entrait l'escalier d'une tour au château de Combourg. On sait qu'il y a une grande thématique des fantômes, des fantômes en Écosse, hein, notamment, vous le savez aussi bien que moi. Il faut savoir qu'il y a aussi la thématique du train fantôme. Les images, par exemple, du train mortuaire d'Abraham Lincoln sont importantes. Les autobus fantômes, les avions fantômes, évidemment tout ce qui est lié aux histoires du triangle des Bermudes, tout ça est important. Alors la presque totalité des apparitions de fantômes ne sont connues que par les récits du ou des témoins, souvent repris d'ouvrage en ouvrage sans vérification. Dans nombre de cas, le récit est tenu d'un tiers, comme l'indique très honnêtement Pline le Jeune dans son célèbre récit. Cette histoire, je la crois sur la foi d'autrui. D'ailleurs, Pline le Jeune semble n'être guère convaincu, car le récit s'insère dans la question qu'il pose à son ami sur le sujet. Hein. Je voudrais donc bien savoir si vous pensez que les fantômes sont quelque chose de réel, hein, si ils ont une forme qui leur soit propre, si vous leur attribuez une puissance divine, ou si ce ne sont que de vaines images qui tracent dans une imagination troublée par la scène. De ce fait, la preuve de l'authenticité est problématique. Certaines histoires relèvent clairement du folklore ou de la légende. Donc, sans que l'origine du mythe puisse être connue. Pour d'autres, les qualités des témoins suggèrent que le récit est recevable, tout en tenant compte des possibilités d'illusion ou d'hallucination, s'il s'ajoute évidemment les dérèglements psychologiques et psychiatriques, les inventions, les canulars et autres supercheries. Si des photographes tels Simon Martzen se sont spécialisés dans la photographie de lieux sinistres, les photographies de fantômes eux-mêmes sont très rares et controversées. En effet, vous connaissez aujourd'hui toutes ces émissions telles que RIP ou de chasse aux fantômes qui vous expliquent que par A plus B avec photo à l'appui, que bien souvent il s'agit de canulars. Néanmoins, il y a quand même, comme un peu dans un certain nombre de phénomènes, un pourcentage résiduel qui font que ça n'est, on n'a pas d'explication. Par exemple, l'abbaye de Mortemer, dans les années 90, fut au cœur de l'actualité paranormale, lorsqu'une journaliste du nom de Muriel Mott prétendit avoir photographié à plusieurs reprises les silhouettes d'un spectre entrant les ruines de la nuit. Il s'agissait de la photographie floutée des restes du clocher de l'abbatiale éclairé par un projecteur. Dans la plupart des cas, lorsqu'il s'agit d'anciennes prises de vue, la cause la plus probable est une double exposition. Sinon, il peut s'agir d'un reflet ou d'un objet parasite proche. Proche de l'objectif de l'appareil. Dans le cas où la photographie est prise dans l'obscurité totale ou relative, l'appareil mélange une image nette prise pendant le bref éclair du flash. Parallèlement à ça, on a les fameuses orbes, qui sont des petites taches circulaires blanchâtres qui apparaissent sur des photographies numériques prises à l'aide d'un flash, à propager l'idée qu'il s'agissait de la trace laissée par des esprits fantomatiques. D'autres origines, plasma, ovni, ont été avancées par les tenants du paranormal. En fait, les orbes sont des images parasites provoquées par la réflexion de la lumière du flash sur des particules présentes dans l'air à proximité de l'objectif. Il peut s'agir de poussières diverses, de moucherons, de flocons de neige ou de gouttelettes d'eau. Cela dit, il y a quand même une interprétation, il faut le savoir, ésotériste de ces orbes. Et je vous recommande, si vous n'avez pas déjà été le voir, d'aller visiter quelques-uns des forums consacrés à ça, notamment un passionnant animé par un de nos amis qui s'appelle Jonathan. Voilà. Adama Jonathan. Alors on a aussi des films qui vont tenter de nous montrer que ces fantômes existent, des enregistrements sonores. Thomas Edison, vous imaginez, sera amené à contribution. Et puis on a le phénomène du fameux chasseur de fantômes, alors jusqu'à Ghostbusters, le fameux film comique des années 80, que vous connaissez tous, sorti en 84. On a le cas de l'anglais Harry Price, fondateur en 1925 du National Laboratory of Psychical Research. Il fut probablement le plus célèbre chercheur dans ce domaine au XXe siècle. Il publia une douzaine d'ouvrages, donc deux jours consacrés au presbytère de Bourley. De nos jours, de nombreuses personnes ou associations d'amateurs se proclament chasseurs de fantômes sans pour autant avoir une attitude réellement scientifique. Malgré l'emploi fréquent de divers appareils sophistiqués censés fournir des preuves, des phénomènes n'apportent rien de concret aux études sur le sujet. Alors face à la science, bien sûr, on a quelques réactions. Immanuel Kant, philosophe, 1724-1804. On peut être sûr que jamais une académie des sciences ne choisira un pareil sujet pour le mettre au concours. Non pas que chacun de ses membres soit persuadé de la futilité et du mensonge de toutes ces narrations, mais bien parce que la loi de la prudence met de sages bornes à l'examen. Et ça, c'est quand même important de préciser. Dans la seconde partie du 19e siècle, jusqu'au milieu du 20e, parmi ceux-ci, on peut citer donc des gens qui ont fait des recherches de façon indépendante. Camille Flammarion, 1842-1825, astronome, Charles Richer. Donc, que dire d'autres, hein? Il y a aussi ce que j'évoquais tout à l'heure au début de cette petite émission, ce qu'on appelle les hallucinations. Les hallucinations qui sont provoquées par la fatigue cérébrale, etc. Et puis la fameuse paralysie du sommeil, joue un rôle quelque peu importe. Et puis au fur et à mesure du temps, on va basculer dans les temps où le fantôme ne va plus tellement intéresser grand monde, jusqu'à la période actuelle où on assiste quand même à un regain d'intérêt pour un phénomène qui est quand même jugé comme non existant ou paranormal. Donc en France, c'est d'abord l'épisode du fantôme de la petite fille de Guillaume le Conquérant en Normandie, Mathilde Lempresse, qui serait apparue à la fameuse abbaye de Mortemer dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite, il y a le fameux épisode des touristes anglaises du 10 août 1901. Qui, dans le château de Versailles, aurait eu une espèce de glissement temporel et se serait retrouvé témoin de scènes se passant à la veille de la Révolution en 1989. Il y a le château de Vos, dans l'Allier, une forteresse qui serait hantée par le fantôme de Lucie, une jeune domestique morte de faim dans une tour du château. L'ancien prioritaire propriétaire, pardon, le baron Ephraim Tagori, prétendait la rencontrer toutes les nuits sur un chemin de garde. L'événement a fait l'objet d'un reportage réalisé par Jean-Louis Gasta en août 84 et diffusé le 8 juillet 92 dans l'émission Mystère, la fameuse émission. Donc voilà un peu où on en est sur cette histoire de fantômes en Occident. Hein. Et de retour récent d'un voyage d'études et de visite en Chine, je me suis intéressé également à la question de ce qu'on appelle les fantômes chinois. Alors à l'origine c'est un film, hein. Donc c'est tout à fait autre chose au niveau de la manifestation de ce fantôme. Ça a été popularisé par le cinéma, notamment japonais, hein, où on voit, vous le savez, ces personnages avec les cheveux longs rabattus, comment dire, sur leur visage, de telle sorte qu'on ne les voit pas, ce qui rend le phénomène encore plus effrayant. Et donc un premier film en 1987, un film hongkongais réalisé par Ching Siu-tung et qui nous annonce donc un film qui est en fait un remake en fait d'une libre adaptation de la nouvelle L'étui merveilleux du recueil Fu Songlin. Et qui reprend une bonne partie des événements, l'idée de s'installer dans le lieu, de son objet d'étude est important. Alors le synopsis, c'est Ning, Leslie Cheung, qui joue ce rôle. Il joue un inspecteur des impôts un peu timide, qui doit se rendre dans les campagnes reculées pour faire son travail. Lors de l'une de ses habituelles tournées, il passe la nuit dans le temple Lan Yu. Il rencontre le taoïste Yen et une femme mystérieuse, Xiao Qing. Celle-ci est un fantôme séduisant les hommes pour les offrir à son maître l'arbre démon. Donc voilà ce que j'ai eu le privilège de voir, enfin de voir en tout cas de prendre connaissance de ce genre d'histoire de fantômes. Il y a ensuite une suite qui a été donnée, l'histoire de fantômes chinois numéro 2, un film donc cette fois-ci de hongkongais, réalisé par Ching Siu-tung, produit par Tsui Ark, sorti en 90, donc là déjà, en ce qui concerne les trucages, c'est déjà mieux. Et le synopsis, c'est que c'est Ning Tsai-shen qui fait la connaissance de Chin Tsao. Il rencontre les brigands près d'un temple et se joignent à eux pour délivrer le seigneur Fu, leur maître, d'un démon. Parce que là aussi, la thématique du fantôme et du démon est assez proche dans ces histoires de fantômes chinois. Troisième épisode sorti en 91, Fong et son maître s'arrêtent au temple Lan Yu pour passer la nuit. Ce temple est le repère du démon Lao Lo. Se nourrit de l'énergie vitale. Alors ensuite, nous avons un peu comme un prolongement un peu de cette petite intervention, nous avons justement une exposition, et j'ai trouvé ça stupéfiante par hasard l'autre jour, qui se met en place justement sur les fameux fantômes de l'Extrême-Orient et qui aura lieu au musée des Arts Premiers, je pense tout l'été jusqu'à cet automne. Alors, voilà ce qu'on nous décrit, des peintures bouddhiques, ogis aurores, des estampes de Kusai à Pac-Man, du culte des esprits en Thaïlande au manga d'horreur, la figure du fantôme, ajoute en mer. Figure de fantôme donc présentant des créatures fantastiques du folklore japonais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait un comparatif, on a quand même l'impression que les histoires de fantômes chinois sont beaucoup plus authentiques que celles de japonais, mais c'est un point de vue évidemment qui n'engage que moi. Donc, il y a un parcours audio guidé en 3D, réalisé par le Crédit Agricole, évidemment un peu de pub et de sponsoring ne fait pas de mal. Et on dit, sensible, s'abstenir, parce que bien que la commission de l'exposition, commissaire d'exposition, Julien Rousseau, responsable de l'unité patrimoniale Asie qui Branly, assure avoir voulu une exposition grand public, il vaut mieux que celui-ci soit averti. La superbe scénographique n'enlève rien au fait que le parcours est fidèle à la promesse du titre, à savoir un voyage dans les enfers. Les enfers synonymes de souffrance. Mais en Asie, pas d'éternité. Dans le bouddhisme, toute forme d'existence est transitoire, explique Julien Rousseau. Aussi, l'enfer est un purgatoire et on y reste plus ou moins longtemps. Voilà ce que l'on peut dire sur tout cela. Il y a des pièces ethnographiques, des extraits cinématographiques. Donc, voilà ce que l'on peut dire sur cette expo du Quai Branly qui donc va quand même être basée sur une iconographie tout à fait conséquente. Alors les films qui sont projetés révèlent pour leur part de façon flagrante les différences entre les cultures en Asie du Sud-Est. Au Japon, les fantômes ne touchent jamais les vivants, ils se contentent de les hanter, raconte le journaliste Stéphane de Ménildo, conseiller scientifique de l'exposition pour le cinéma. En Chine, les scénarios reposent sur le pouvoir, voire les super-pouvoirs des religieux et autres exorcistes. Enfin, en Thaïlande, on sombre dans une extrême violence, au point que les extraits de films thaïlandais sont projetés dans une pièce dédiée, un petit peu à l'écart, avec un avertissement, et effectivement, il s'agit bien de films d'horreur et d'épouvante, pour le moins cru. De manière générale, le film représenté sont à déconseiller aux enfants. L'immersion dans ces décors de films fantastiques se poursuit hors des écrans, et va se poursuivre d'ailleurs jusqu'au mois de septembre, je crois. Donc, sont des histoires de fantômes passionnantes. Ce qui est passionnant, mais qui n'est pas la plus mise en valeur, ce sont aussi des histoires qui se transmettent de génération en génération sur les cultures, qui sont racontées par exemple au Japon, la période Edo, lors de veillées en bougie, durant lesquelles une chandelle était éteinte. À la fin de chaque récit, pour faire apparaître un esprit une fois l'obscurité installée. Ainsi, celle de Mulian, jeune moine qui décide de rejoindre sa mère aux enfers, pour lui venir en aide, arène dans la rue, d'une lampe offerte par Bouddha, mais trop tard, son salut ne tient qu'aux actions accomplies sur terre. Ainsi celle d'Anya, femme emprise de jalousie qui vient hanter son ancien amant et sa rivale, ainsi celle de deux moines bouddhistes tombés dans les enfers après s'être enrichis par un commerce religieux, ainsi celle de Mac. Celle de Mac notamment, qui revenant de la guerre retrouve femme et enfant avant de s'apercevoir qu'il s'agit de fantômes. Ainsi encore celle de la femme chat qui manipule les humains comme des marionnettes. Donc des histoires des personnages qui ont traversé les siècles ne cessent d'être réinventées. À la star des yokai, ces créatures à la fois monstres, esprits et fantômes qui peuvent se transformer, dont on trouve la trace au Japon sur les rouleaux du 15e siècle et qui revivent aujourd'hui dans les mangas. C'est intéressant de voir le recyclage du fantôme asiatique dans le manga, bien sûr. Les figurines dérivées, les jeux vidéo que l'on trouve d'ailleurs en fin de parcours avec des bornes d'arcade en fonction. Qu'est-ce que Pac-Man si ce n'est une chasse aux fantômes, effectivement. Enfin, un espace pour les enfants, du tout sur le mur en face, une écolière pendue, balance et surveille. Alors, il y a également prévu en marge de cette exposition, décidément, qui arrive fort à propos, donc je vous le rappelle, hein, une exposition qui va se dérouler jusqu'à l'été et qui démarre là courant avril au musée du Quai Branly sur les fantômes de l'Extrême-Orient. Et il y aura également, m'indique-t-on, un cycle de projection proposé cette fois-ci au palais de Chaillot, si j'ai bien compris. On a pas mal d'activités. Alors tout ça nous mène à penser pourquoi le mystère, hein, pourquoi le mystère. En effet, parce que c'est surtout en fait ce sentiment de mystère nous vient surtout très certainement même d'ailleurs d'abord du choc que représente tout contact avec l'Asie, avec l'Extrême-Orient, avec finalement ce qui est un autre monde. Un autre monde qui nous échappe complètement quand on n'est pas du tout familiarisé avec ce que cela peut être. Que tout cela. Alors, autre monde, il faut tout réapprendre, tout recomprendre, tout réinterpréter et se déconstruire complètement nos visions occidentales. Rien que pour ça, je vous conseille, si vous avez cette chance, d'aller, que ce soit au Japon, en Thaïlande, en Chine, enfin dans tous ces pays-là, de pénétrer dans un de ces temples extraordinaires qui souvent ont plusieurs milliers d'années, qui sont parfaitement intacts et extrêmement vivants au niveau des religions qui y sont pratiquées. Et cela permet de jauger ainsi la mesure, hein, la mesure des différences culturelles. On pourrait presque parler d'autres civilisations. On aurait très bien se situer à des millions d'années-lumière dans d'autres cultures, que ça serait pareil. Hein. Et donc, bien souvent, la thématique, hein, et on l'a vu là rapidement dans cette petite émission, que le fantôme finalement occidental est quand même radicalement du fantôme extrême-oriental. Quoi. Hein, évidemment, c'est un nom mort, c'est une image d'un personnage, d'un revenant, hein, d'un spectre, mais ça s'arrête là. Hein. Tout le reste est baigné dans la culture de ces autres mondes. Je m'arrête là, je n'en dis pas plus, puisque bien sûr, je vous invite à aller sur le site du musée du Quai Branly pour voir, musée d'ailleurs des arts premiers que je recommande de visiter, mais pour voir aussi ce qu'il en est de cette exposition temporaire. Et puis, je vous invite aussi à me retrouver pour l'émission du 24 mai. On a un peu bousculé nos programmes de la thématique de l'année, mais nous nous consacrerons cette fois-ci à un autre grand thème historique qui a refait jaillir le merveilleux que l'on croyait impossible, qui sera donc consacré à la redécouverte de la ville de Troie. Hein, la ville de Troie, qui est une ville mythique, hein, racontée dans l'Iliade d'Homère. Hein, et Troie, cette fameuse ville, vous savez, qui a été un enjeu entre de grandes familles grecques, hein, qui a donné lieu à l'Iliade, hein, bien sûr, voilà, la fameuse saga de l'Iliade, et qui était considérée comme une ville mythique qui n'existait pas. Hein, jusqu'à ce qu'au XIXe siècle, un archéologue du nom de Schliemann, hein, a réussi à remettre la main sur cette ville, hein, qui est située aujourd'hui en Asie mineure, hein, donc le côté turc dans la région, hein, on en reparlera. Et c'est tout à fait extraordinaire, car cela montre aussi que certains grands mythes, comme j'ai déjà dit dans plein d'émissions de ce type, hein, certains grands mythes sont en fait un jour ou l'autre, suite à certaines découvertes, prennent corps et deviennent réels, hein, et on se rend compte qu'en fait ce qui était raconté était tout simplement la vérité. Et ça, c'est extraordinaire, car quand le merveilleux, l'imaginaire prend forme, c'est généralement un grand moment pour l'enrichissement de nos cultures. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. C'était Olivier sur la web radio Terra Zen, des histoires du soir. Et je vous donne rendez-vous donc jeudi 24 mai, cette fois-ci en direct de 21h à 22h. Merci encore pour votre écoute et encore mes excuses pour cet enregistrement en différé. Merci, au revoir.